Cher ami, lisons ensemble dans le livre de Néhémie ce soir. Le livre de Néhémie, chapitre 1er. Dans la version Darby, c'est la page 357. Le livre de Néhémie, chapitre 1er. Les paroles de Néhémie, fils de Hakalia, et au mois de Kislev, la 20e année. Il arriva que, comme j'étais à Sus, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes, vinrent de Juda, et je les interrogeai sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont demeurés de reste de la captivité là, dans la Provence, sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Et la muraille de Jérusalem est en ruine, et ses portes sont brûlées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais. Et je menai deuil plusieurs jours, et je jeûnais, et je priais le Dieu des cieux. Verset 11. Je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom, et fais réussir aujourd'hui ton serviteur, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant cet homme. Or, j'étais échanson du roi. Chapitre 2. Et il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi, et je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Et pourtant, tu n'es pas malade. Cela n'a rien que de la tristesse de cœur. » Alors, j'eus extrêmement peur. Et je dis au roi, « Que le roi vive à toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu de sépulcre de mes pères, est dévastée et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Et je priai le Dieu des cieux, et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et que je la bâtirai. » Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, « Combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu ? » Et il plut au roi de m'envoyer. Et je lui fixa un temps. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'il me fasse passer jusqu'à ce que j'arrive en Judée, et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente des portes du château fort, attenant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. Et le roi me les donna. Selon la bonté, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et je vins auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve, et je leur donnai les lettres du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers, et quand Sanballat le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, la prirent, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Or j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours, et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, en face de la source de Chacal, vers la porte du fumier, et je considérais les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. Et je passais à la porte de la fontaine et à l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où pût passer la bête qui était sous moi. Et je montais de nuit par le torrent, et je considérais la muraille. Et je m'en revins et entrais par la porte de la vallée, et je m'en retournais. Or les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. Et jusque-là, je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. Et je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée et que ses portes sont brûlées par le feu? Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi, et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Et quand Sambalat le Horonite et Tobija le serviteur Ammonite et Geshem l'Arabe la prirent, ils se moquèrent de nous, et ils nous méprisèrent et dirent, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi? Et je leur répondis et je leur dis, le Dieu des cieux, lui nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Voilà un peuple élu par l'Éternel, séparé pour lui, pour répandre la connaissance de l'Éternel, très privilégié, très béni, pour être une bénédiction pour toute la terre. Maintenant, dans la ruine, captivité, tristesse, opprobre, déprimé, rempli d'un sens d'inutilité, et pourtant, un peuple privilégié que rien d'autre sur la surface de la terre, aimé par l'Éternel, béni, mais ils n'ont pas pu répondre au cœur de l'Éternel. Mais ne restons pas là de considérer ce peuple de Dieu et de dire que c'est triste. Faisons donc un parallèle avec un autre peuple élu, séparé pour Dieu, racheté par son sang, privilégié aussi pour être en bénédiction, l'Église. L'Église, l'épouse de Christ, le corps de Christ, la maison de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons? La maison de Dieu est devenue une grande maison. 2000 ans, l'histoire triste de division, de faiblesse, de tristesse, de ruine dans l'opprobre. Aussi peut-être ici et là aujourd'hui, ceux qui aiment le Seigneur, peut-être aussi avec un sentiment d'inutilité, de découragement. Est-ce que cela s'applique à nous, à moi, à vous? On se pose la question. Nous voyons dans l'histoire d'Israël, pendant cette captivité et le retour par la grâce de l'Éternel, presque la nécessité et le besoin d'un réveil. Chaque fois se répétait, 4 fois se répétait un réveil. Nous voyons déjà dans le livre d'Esdras, où donc nous voyons le retour de la captivité de Babylone, un réveil par le roi de Cyrus qui a été certainement prophétisé par Ésaïe dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44 et chapitre 52, où le prophète a prophétisé de Cyrus, le serviteur de l'Éternel. Et nous voyons donc dans le livre d'Esdras, chapitre 2, qu'il y avait donc Zorobabel avec une minorité de 42 360 juifs dont le cœur avait été touché par cet appel de retourner, de pouvoir retourner à Jérusalem, le lieu où l'Éternel avait donc placé son nom. Très peu, un résidu, une minorité qui sont retournés. Donc, un réveil qui s'est produit et qui ont répondu. Et pendant 16 ans, ils ont eu donc une activité constructive à Jérusalem. Mais ils se laissaient décourager par les circonstances. Et pendant 16 ans, pas d'activité. Nous lisons qu'il était nécessaire donc que l'Éternel parle encore une fois à leur cœur, à leur conscience, un deuxième réveil par les prophètes Agée et Zacharie dans le chapitre 5e d'Esdras. Par leur ministère, ce peuple a été secoué de leur sommeil. Un deuxième réveil. Et se sont mis, encore une fois de plus, à une activité constructive. Mais ils ont cessé à la fin du chapitre 6e. Et pendant 60 ans, pas une activité pour la gloire de l'Éternel. Et un troisième réveil. Maintenant par Esdras, chapitre 7e, Esdras qui arrive à Jérusalem avec peu de gens avec lui et qui recommence encore à restaurer les choses qui sont encore en ruine, encore une fois de plus par le manque de moyens, découragé, il se trouve encore dans cet état misérable de l'opprobre. Et finalement, nous venons à un autre livre de Néhémie. Une quatrième fois, réveil. Maintenant, c'est le cœur d'un homme touché par le souci pour les autres. Néhémie, est-ce qu'il est disponible, ce Néhémie, de répondre dans le temps de ruine, dans un temps de besoin? Voilà le fardeau qui est donc sur mon cœur, chers frères et sœurs, que j'aimerais partager avec vous, selon que le Seigneur nous donne la puissance, la direction pendant ces quelques soirs ensemble, dans notre méditation, dans ce livre de Néhémie. On pourrait donc penser à un titre, on pourrait dire l'engagement personnel. Est-ce que nous sommes engagés? Où est-ce que nous nous sentons impliqués? Où est-ce que nous avons le sentiment de souci pour les autres? Est-ce que la situation actuelle, aujourd'hui, autour de nous, au milieu de nous, nous touche? Ou est-ce que nous restons indifférents? Israël, dans le temps, était renfermé sur elle-même. Au lieu d'être une bénédiction pour les autres, avec cette révélation qu'ils avaient du Dieu, l'Éternel, ils se sont renfermés en eux-mêmes, restés exclusifs, sans réaliser leur mission dans ce monde. Est-ce que cela s'applique aussi aujourd'hui à nous? Nous avons une grande richesse dans la parole de Dieu, que nous avons, pour ainsi dire, héritée par nos devanciers. Une lumière sur la parole, sur beaucoup de choses, les précieuses vérités, qui étaient, comme ainsi dit, sous la poussière, restées pendant des longs siècles. Et puis maintenant, notre état aujourd'hui, quand on fait un parallèle avec Israël, est-ce qu'il y a aussi parmi nous des ruines, des murailles, des portes qui doivent être restaurées? Alors, ce soir vient donc de la part du Seigneur un appel à chacun de nous, oui à chacun et chacune, les enfants de Dieu. Et cet appel, c'est est-ce que le Seigneur peut nous appeler pour être des réparateurs des brèches aujourd'hui, des réparateurs des brèches. Mais on n'aime pas être impliqué, on aime bien d'être paisible, sans beaucoup d'exercice. La paix qui règne. Mais quelle sorte de paix? On n'aime pas les troubles. Eh bien, c'est facile de se laisser endormir. Et on n'est pas en souci de tout ce qui se passe autour de nous, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos assemblées, dans notre ville, dans notre pays, dans ce monde. C'est possible aujourd'hui que quelqu'un a un accident dans la rue et les gens, les piétons qui passent parce qu'ils ne veulent pas être impliqués. Peut-être si on s'arrête, on sera impliqué avec la police, on n'aime pas entrer dans des difficultés, eh bien on passe, on tourne sa tête. Est-ce que c'est notre attitude parfois aussi? On ne veut pas être impliqué. Alors, ce que nous voyons ici, c'est un Néhémie quand il entend la nouvelle qui lui arrive de Jérusalem et de Juda. Nous voyons donc en lui, dans le verset 4, qu'il pleurait. Je menais deuil plusieurs jours, je jeûnais et je priais. Où sont ces exercices spirituels aujourd'hui parmi nous? Oh, on parle d'un jeûne spirituel très facilement. Mais alors, pour un ennemi, il pleurait. Il pleurait pour ses frères et ses sœurs. Il pleurait pour la situation, pour la ruine autour de lui, pour l'opprobre, pour le nom de l'Éternel. Et nous, peut-être, nous ne sommes pas renseignés. Est-ce que nous savons bien ce qui se passe dans les assemblées, dans les foyers? Tu viens encore pour préciser ce que je veux dire? Est-ce que les choses autour de nous nous intéressent? Nous voyons donc cet engagement personnel de Néhémie. Il est intéressé, les trois premiers versets du chapitre premier. Il est concerné, verset 4, il mène deuil, il pleure. Et les versets 4 jusqu'à 10 que nous n'avons pas lus nous montrent qu'il supplie l'Éternel. Il est à genoux, il prie, il supplie. Ah oui, il ne se dissocie pas lui-même. Il dit dans le verset 6, « Nous avons commis contre toi les péchés. Moi, il est impliqué lui-même personnel. Moi aussi et la maison de mon père. » Ce n'est pas ses frères ou ses personnes. Oh, nos ancêtres, nos devanciers, une autre génération, c'est moi. Moi, je suis impliqué. Je porte aussi, moi, la responsabilité d'aujourd'hui. Alors, est-ce que, si c'était nécessaire pour Israël, qu'un réveil se répète plusieurs fois, peut-être nous avons besoin aujourd'hui encore de redire, d'enseigner encore, de dire pourquoi nous sommes là où nous sommes, selon l'Écriture. De redire la doctrine de l'Assemblée et le but de l'Assemblée sur cette terre. Pourquoi nous sommes membres du corps de Christ? Pourquoi nous avons des dons de l'Esprit? Pourquoi nous devons fonctionner? Pourquoi il faut porter du fruit pour le Seigneur Jésus? Pourquoi nous sommes ici, laissés encore sur cette terre? Pourquoi? Est-ce que nous savons répondre chacune de nous à ce pourquoi nous sommes ici? Seulement pour recevoir le pardon de nos péchés et puis de vivre pour nous-mêmes? Nous voyons sa foi dans le verset 9. Il a mis sa foi dans l'Éternel, les promesses de l'Éternel. Et aussi, nous voyons dans le verset 11 qu'il a des pensées quant à l'approche devant le roi. Il ne reste pas inactif. Il réfléchit dans les deux premiers versets du chapitre 2. Il y a une requête au roi dans le verset 3 à 8. Et il met aussi, il y a de l'action dans le verset 9 à 11. Si par la grâce, nous avons vu le but de la présence de l'Église sur cette terre, seulement comme doctrine, et de ne pas le réaliser d'une manière pratique dans la vie de chaque jour. Dieu n'arrive pas à son but avec nous. Et pour nous, ce n'est pas une question maintenant de revenir à une élucidation de la vérité, des principes de l'Écriture, nous le savons très bien. Nous sommes réunis sur les principes du Nouveau Testament. C'est pas ça. Mais c'est l'application très personnelle de ce que cela implique pour nous que de se rassembler pour le nom et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de se rassembler comme une manifestation locale du corps de Christ universel, de réaliser cela dans l'harmonie, dans l'unité, dans l'amour fraternel, et encore beaucoup d'autres choses, les choses qui sont très pratiques. Il s'agit de la vie de l'Assemblée, la vie de l'Église, et pourquoi je suis membre dans le corps de Christ. Il faut donc redire, il me semble presque chaque 10 ans, redire la doctrine, l'enseignement de l'Église. Pourquoi l'Église? Et pas, on dit aujourd'hui, oh, la doctrine, c'est tellement sèche. Parlons de l'amour, parlons de l'évangéliser. Tout cela est important, l'amour et l'évangélisation, mais sans la doctrine. Imaginez-vous si, alors moi, je peux me tenir debout devant vous ce soir. Pourquoi? Parce que sous mon pot, il y a un squelette. S'il n'y avait pas un squelette sous mon pot, je ne pouvais pas me tenir debout. Alors, le squelette, c'est comme la doctrine. Sans la doctrine, je ne peux pas marcher selon la pensée de Dieu. On a donc besoin de la doctrine. Mais alors là, vient la responsabilité de ceux qui enseignent. Comment est-ce qu'on enseigne la doctrine, l'enseignement? Est-ce que c'est d'une manière d'un détachement de soi-même, ou est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent donc voir que ceux qui enseignent, ils l'appliquent eux-mêmes, le premier dans leur vie? Donc, dans ce chapitre premier, dans les 3 premiers versets, nous voyons le défi. Dans les versets 4 à 11, nous voyons l'esprit de disponibilité. Dans le chapitre 2, si dans le chapitre 1, nous voyons la préparation du serviteur, ou de l'instrument, si vous voulez, le réparateur des brèches, dans le chapitre 2, et c'est la préparation du chemin du serviteur, l'équipement, si vous voulez. Les 8 premiers versets, l'équipement, nous avons aussi un équipement spirituel disponible. Dans les versets, chapitre 2, 9 à 16, nous avons une réévaluation. Il y a une investigation personnelle de Néhémie sur place, dans les versets 9 à 16, et versets 17, 18, la recherche de la coopération avec ses frères, la communion fraternelle. Et les versets 19 à 20, un esprit de détermination. Voilà quelques sujets qui nous occupent ce soir avec l'aide du Seigneur. Donc, premièrement, le défi, chapitre 1, versets 1 à 3. La personne de Néhémie, sa position, où est-ce qu'il se trouve? Dans le palais. C'est une personne haute placée. Il se dit, j'étais échanson du roi, une sorte de secrétaire, la main droite du roi. Donc, un homme dans lequel le roi avait trouvé une fidélité, un homme que, de poids, un homme fidèle dans tout ce qu'il faisait, qui mérite de remplir cette place de responsabilité. Mais ce qui nous frappe, c'est que ce Néhémie, quand il entend donc la nouvelle de Jérusalem, ne reste pas indifférent. Il a le sentiment de souci pour les autres, pour pouvoir s'occuper des besoins spirituels des autres. Il faut être, pour ainsi dire, libéré de soi-même. Souvent, les enfants de Dieu sont tellement chargés des fardeaux personnels. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, n'ont pas encore réalisé qu'est-ce que c'est que l'affranchissement. Ils ont le pardon de leurs péchés. Quand ils meurent, ils vont dans le ciel et c'est tout. C'est l'horizon, c'est la limite de leur expérience. Mais ils n'ont pas encore trouvé la libération en Christ d'eux-mêmes, de cet vieil homme, cette vieille nature. Ils se sont toujours occupés à disséquer le vieil homme. toujours se regardent misérables, faibles, etc. Et de plus en plus qu'ils se regardent eux-mêmes, les braves chrétiens, de plus en plus qu'ils se regardent, de plus en plus ils sont misérables. Ils ne sont pas des chrétiens heureux. Alors, ils sont régénérés. Oh, que le Seigneur nous délivre de nous-mêmes. Et que nos regards soient sur lui, toujours vers lui. Donc, pour être utile pour le Seigneur, il faut s'occuper de lui pour pouvoir être occupé avec les siens. Mes frères, mes sœurs, ceux qui sont autour de moi, les incrédules, de pouvoir donner aux autres, il faut recevoir soi-même de cette plénitude que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. De réaliser que même dans les temps de ruines, nous avons des ressources, les ressources intarissables, sans limite. C'est un peu comme Néhémie, qui a donc ce sentiment, cet esprit de souci pour les autres. Il avait aussi une connaissance remarquable. Il connaissait donc l'intention de l'Éternel quant à Jérusalem, cet endroit où l'Éternel a donc mis ou choisi pour y placer son nom, choisi pour y faire demeurer mon nom, verset 9. Ou pour, dans le langage du Nouveau Testament, est-ce que nous connaissons vraiment l'intention de Dieu pour l'Église? On revient toujours, pourquoi l'Église? Nous pensons souvent si indépendamment, égoïstement, si vous voulez. Il s'agit seulement d'avoir reçu le salut, de connaître Jésus-Christ comme son sauveur, et c'est tout. Mais combien d'entre nous réalisent que le jour que nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu, nous sommes incorporés, intégrés dans le corps de Christ. Nous sommes donc devenus des membres dans le corps de Christ, liés les uns aux autres. Ne pas maintenant agir indépendamment l'un de l'autre, mais d'agir dans une harmonie et une unité ensemble. Moi j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi. Vous avez besoin de moi, moi j'ai besoin de vous. Ce sentiment de réaliser, nous avons besoin de l'un de l'autre. Alors si le Seigneur pourrait seulement augmenter ce sentiment d'appartenir les uns aux autres, il y aura moins de critiques derrière le dos des frères et sœurs. Il y a moins de jalousie et de rancune. Il y aura de l'amour. L'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs, qui peut couler vers les autres. Mais c'est par notre préjugé, par mes préjugés que j'empêche cet amour de couler vers mes frères et sœurs. Oh, nous avons besoin de regarder les murailles et les portes, chers frères et sœurs, qui sont en ruine peut-être chez nous. Donc, connaissance de la pensée de Dieu. Et aussi, donc, de réaliser la ruine actuelle d'aujourd'hui. Dieu, l'Éternel, a donc trouvé un homme pour l'heure du besoin, un Néhémie. Est-ce qu'il peut aujourd'hui en trouver des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont disponibles, qui sont prêts à être employés par lui? Est-ce que nous sommes disponibles, chers frères et sœurs, ce soir, pour dire au Seigneur Jésus, je me donne entièrement, esprit, âme et corps, je suis entièrement pour toi, Seigneur. Emploie-moi pour ta gloire, là où tu m'as placé. Voilà le défi. Le défi, les murailles et les portes de Jérusalem sont en ruine, brûlées. Mais qu'est-ce que cela veut dire, des murailles et des portes? Littéralement, des murailles, ici à Jérusalem, c'est pour exclure ce qui n'était pas en rapport avec la maison dans le centre de la ville de Jérusalem. Donc, les murailles et les portes, c'était toujours en rapport avec la maison de Dieu. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, les murailles. Oh, on n'aime pas souvent parler de la séparation. Parce que la séparation a maintenant un goût mauvais. Parce que on a toujours parlé de la séparation comme quelque chose de très négatif. Quelque chose de dur. Mais la séparation est positive. C'est une séparation pour être entièrement pour lui. Et si on est entièrement pour lui, automatiquement, les choses qui ne sont pas de lui sont exclues. Alors, maintenir cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ dans l'esprit, automatiquement, on va voir les choses qui ne sont pas en rapport avec la pensée de Jésus-Christ. Et on les juge, on les tient en dehors. Et les portes sont donc pour donner accès à ce qui est selon la pensée de Dieu. Et ces deux principes vont très loin. Exclure ce qui n'est pas du Seigneur, ce n'est pas selon la parole de Dieu, et donner accès et recevoir, faire entrer ce qui est selon Dieu. Un peu plus personnel. Il y a donc des murailles qui sont en ruine. Appliquons cela personnellement. La muraille de mon âme, de votre âme, les jeunes parmi nous. Vous êtes élevés dans les foyers des chrétiens dès votre enfance. Vous n'avez peut-être pas vécu dans le péché et beaucoup de mauvais actes. Mais, et puis, vous êtes habitués à un langage dans l'assemblée. Mais est-ce que vous avez réalisé qu'il faut se repentir? Repentir de quoi? J'ai pas fait ça. Peut-être vous n'avez pas fait beaucoup de mauvais actes de péché, comme être drogué, ou que sais-je, mais de réaliser qu'il y a en moi, en toi, une nature pécheresse, qui produit donc des pensées, des convoitises, des jalousies, et toute autre chose que vous connaissez très bien, moi aussi. De se repentir parce qu'il y a en moi le péché qui habite là. De se juger dans la présence, de se repentir et de réaliser c'est pour cela, c'est pour cette nature pécheresse que le Seigneur Jésus-Christ a crucifié. Est-ce qu'il y a déjà eu dans votre vie, mes jeunes, filles et garçons, un moment que vous vous êtes repenti avec larmes? Est-ce qu'il y a eu dans votre vie un moment que vous avez réalisé les droits du Seigneur sur votre vie? Est-ce que vous êtes venu à genoux, pleurant peut-être, disant, oh Seigneur Jésus, maintenant j'ai réalisé que je t'appartiens entièrement. Alors, la muraille de notre famille, peut-être il y a 30 ans, 40 ans, on ne parlait pas du tout des choses qui se passent maintenant au milieu de nous. Il y a des familles dans nos assemblées où les enfants sont tombés dans les drogues. Il y a des divorces. Il y a l'avortement. Il y a l'homosexualité. Tout caché. Mais quand on voyage, qu'est-ce qu'on ne voit pas des choses qui se passent maintenant dans notre milieu? Les jeunes qui vivent ensemble sans être mariés. Je vous dis ces choses directes, mes chers frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas se cacher. Nous sommes impliqués. Si on reste indifférent à cela, alors les murailles restent en ruine. La fornication aujourd'hui, c'est un mot qu'on ne dit pas. On passe. Mais ces choses existent. Vivre des jeunes, vivre ensemble, sans être mariés, c'est la fornication, mes frères et sœurs. Est-ce que ces murailles, est-ce qu'on en parle? Est-ce que ceux d'entre nous qui sont responsables pour enseigner la parole de Dieu sont clairs là-dessus? Est-ce que nous laissons présider la parole, nous parler à nos cœurs, à nos consciences, pour donc enseigner nos jeunes de ces choses qui sont réelles? Nos jeunes, souvent, se trouvent dans ce monde sans savoir comment marcher comme un chrétien. Ils ne savent, beaucoup d'entre eux ne savent même pas pourquoi l'Esprit de Dieu habite en nous. Où est la puissance de vivre la vie chrétienne dans la victoire? Pourquoi tous ces troubles au milieu de nous, chers frères et sœurs? Parce que les murailles ne sont pas restaurées et les portes ne sont pas restaurées. Dans nos familles, Il y a des parents qui ont perdu le dialogue avec leurs enfants. Le foyer, on va et vient sans avoir la communion. Pas de dialogue entre parents et enfants. Peut-être que l'ennemi ne réussit pas à un divorce entre croyants, mais il peut rendre le foyer entièrement misérable. Parce qu'on n'a pas su se juger sa propre volonté. On insiste sur sa volonté. On insiste sur son opinion. Et c'est le trouble dans la maison. On ne veut pas se soumettre, ni entre mari, ni entre époux et épouse, ni entre parents et enfants. Les murailles de nos familles, est-ce qu'ils ont besoin d'être restaurés? Les murailles dans nos assemblées, les murailles vis-à-vis de nos voisins, nos voisines, est-ce que nous sommes des témoins pour nos voisins, nos voisines? Est-ce que nous sommes en bénédiction ici à Pau, à Orthez, à Ipswich, en Angleterre? Est-ce que nous avons réalisé pourquoi nous sommes ici dans ce monde? Est-ce que peut-être cette muraille doit être restaurée dans ma vie? Le service pour le Seigneur Jésus. Donc, voilà le défi et voilà la question. Si nous avons réalisé un petit peu ce soir, et je suis sûr que nous le savons très bien, peut-être jusqu'à maintenant, il y en a peut-être quelques-uns parmi nous où nous ne voulons pas être impliqués. Et peut-être c'est pour cela que le Seigneur nous parle ce soir. Et si nous avons réalisé qu'il y a ce défi, qu'il y a ces besoins au milieu de nous et autour de nous et dans ce monde. Est-ce que le Seigneur va trouver un esprit de disponibilité, disant ce soir, Seigneur Jésus, je suis prêt pour toi. Alors Néhémie, dans ce chapitre 2, il trouve donc un équipement pour faire face à toutes ces demandes à Jérusalem. Dans les 8 premiers versets, nous voyons le verset premier. Or, il arriva au mois de Nissan. Quand on lit le chapitre premier, verset premier, et au mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est pour nous le mois de septembre. Et le mois de Nissan, c'est pour nous le mois de janvier. Donc, 4 mois entre le chapitre premier et deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois dans la vie de Néhémie? Il a pleuré, il a jeûné. Il y avait certainement une préparation profonde, spirituelle dans son cœur. Il a pris le temps pour réfléchir dans la présence de l'Éternel. Et pendant ce temps, l'Esprit de Dieu a pu agir dans le cœur de Néhémie d'une telle manière qu'il ressent maintenant le fardeau, le souci pour les autres. Et il aura maintenant la pensée de l'Éternel pour agir selon Dieu. Non, il ne s'est pas dit le moment quand il a réalisé les besoins. Et il faut aller. Le besoin ne constitue pas l'appel. On ne peut pas aller avant le temps. Il y a la nécessité dans nos vies d'une préparation spirituelle. Est-ce que peut-être c'est une autre muraille dans notre vie qui doit être restaurée? La communion personnelle avec le Seigneur Jésus chaque jour. Est-ce que nous le connaissons, la communion? Ou est-ce que nous sommes tellement chargés de travail qu'on n'a pas de temps ni de lire, ni de prier? Prendre du temps. Voilà un Néhémie. 4 mois maintenant sont découlés. Et puis, la nécessité de la préparation. Et il se trouve donc dans la présence du roi. Et pourquoi as-tu mauvais visage? Verset 2. Il répond, mais alors, pourquoi mon visage ne serait-il pas triste? Verset 3. Il a de quoi d'être triste. Je ne veux pas dire que nous devons porter des visages tristes tout le temps. Pleurer, ça se fait dans le secret avec le Seigneur. Jeûner se fait dans le secret avec le Seigneur. Le Seigneur le dit lui-même. Quand tu jeûnes, lave ton visage. Autrement, il y a une sorte d'orgueil spirituel. Je jeûne, Je fais ça et ça et ça. J'ai des exercices spirituels. Je m'endeuille. Et on le dit aux autres. Pourquoi? Pour que les autres me disent, oh, que c'est un frère spirituel ou une sœur spirituelle. Mais non. On mène le deuil, on pleure dans le secret devant le Seigneur. Oui, pour le roi, c'était clair que Néhémie ne se comportait pas comme normal. Il y avait donc une tristesse. Il y a une sorte de sobriété, pas sombre, mais sobre. Voilà la différence. Pas sombre, mais sobre. Beaucoup sont sombres. Non, il avait cette tristesse dans son cœur, pas égoïstement pour lui-même, mais pour l'honneur du nom de l'Éternel et pour les besoins de ses frères et sœurs israélites. Il ressentait ce fardeau. Il portait ce fardeau dans la présence du Seigneur. Et ainsi, il pouvait partager, avoir communion avec le Seigneur Jésus dans ces mêmes sentiments. Vous ne pensez pas que la tristesse, pour ainsi dire, est dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ quand il regarde son Église maintenant sur la terre dans cette ruine. Ayons donc les mêmes sentiments de notre Seigneur Jésus. C'est un homme de prière. Dans ce verset 4, « Que demandes-tu ?» Verset 5, « Et je priais le Dieu des cieux. » Il ne pouvait pas se mettre à genoux. Et ce n'est pas nécessaire de se mettre à genoux pour pouvoir prier. Il y en a beaucoup d'entre nous que nous ne pouvons pas être des heures à genoux. Les mamans qui sont actives dans la cuisine, dans la maison, les frères qui sont dans le bureau, les autres étudiants. Mais ça n'empêche pas du tout que de maintenir la communion avec le Seigneur dans la cuisine ou dans le bureau. Ce sentiment de dire au Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Cet esprit de dépendance sur lui, ce maintien de cette dépendance sur lui, on peut le maintenir. La communion. Et c'est pour cela qu'il pouvait prier. Pas des longues prières, des longues prières. Non, c'était précis. Je priais. Entre parenthèses, la réunion de prière, ce n'est pas pour annoncer la parole de Dieu ou pour dire ce que Dieu sait déjà, mais c'est de présenter des supplications, des intercessions, des prières précises. L'Assemblée, en acte 12, elle priait pour Pierre. Oh, Seigneur, Pierre est dans la prison. Seigneur, délivre Pierre. C'était précis. Préciser ses requêtes. Il faut être renseigné. Il faut se renseigner des besoins qui sont autour de nous pour pouvoir arriver à la réunion de prière et pour pouvoir prier. Il faut donc être renseigné de ce qui se passe, pas seulement dans nos milieux, mais aussi qui se passe sur les champs où les ouvriers du Seigneur travaillent. Et pas seulement ceux qui sont de nous. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour ses frères et sœurs, membres dans le corps de Christ qui sont en Russie, dans les prisons, les camps de concentration? On n'est pas renseigné. Je m'excuse de vous le dire, mais il y avait une fois que j'étais en visite dans une assemblée, et après le culte, on se saluait dans l'entrée, et un frère qui s'approchait de moi, « Bonjour, Monsieur Bruins. Ah, vous habitez au Liban, donc ?»« Oui. » »« Eh bien, est-ce que vous êtes un employé d'une société pétrole ?» Et j'avais déjà, par la grâce du Seigneur, travaillé 15 ans dans le Proche-Orient, annonçant les parents de Dieu. Ce frère me posait la question, « Est-ce que vous êtes un employé d'une société pétrole ?» On peut rire, mais c'est triste. Aujourd'hui, il y en a parmi nous assez de renseignements sur ce qui se passe dans l'œuvre du Seigneur Jésus, les besoins. Est-ce qu'on n'est pas intéressé? Est-ce que nous savons vraiment les besoins des frères et sœurs avec lesquels nous nous trouvons dans la même assemblée? Ce qui se passe dans les vies et les cœurs de nos jeunes, leurs problèmes, leurs difficultés? Des foyers, ou est-ce que c'est seulement le dimanche qu'on se voit autour de la table du Seigneur, et encore l'après-midi, et peut-être encore la réunion de prière, et c'est tout, nos contacts l'un avec l'autre, et le reste, on ne sait pas. Si quelqu'un est malade, Peut-être 3 semaines après, on se demande où est-ce qu'il était. Frères et sœurs, voilà les murailles qui sont en ruine. Et les portes, un homme de prière, avec un esprit disponible. Il me semble que le verset clé se trouve dans le verset 5. Qu'il m'envoie. Qu'il m'envoie. Voilà un homme qui ne parle pas seulement, qui n'avait pas seulement de théorie, mais voilà un homme qui était prêt, prêt à agir, à aller où sont les besoins. Que le roi m'envoie. Et c'est précisément ce que le Seigneur désire faire. Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je suis entre tes mains. Donc, nous voyons cette disponibilité, mais aussi, il avait besoin d'un équipement, d'être équipé pour sa tâche. L'Éternel a utilisé un homme ici pour fournir Néhémie, qui m'envoie, qui me donne des lettres, verset 7, et aussi une lettre pour Asaph, verset 8, pour pouvoir réparer, restaurer les portes, les murailles. Et il arrive sur place. Il n'est pas resté dans son fauteuil, théorétiser, parler de ce qui se passe dans les autres milieux. Il était prêt de laisser son fauteuil confortable et cette influence dans laquelle il vivait dans le palais pour aller voir, pour réévaluer la situation. Et c'est une investigation très précise. Remarquons les verbes dans le verset 9. Je vins. Le verset 12, et je me levais. Le verset 13, et je sortis. Le verset 14, et je passais. Le verset 15, et je montais. Le verset 15, et je considérais. Tout cela implique action. Pas passivité, action. C'est à chacun donc de nous de se placer dans la présence du Seigneur Jésus et se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne dis pas qu'il faut courir droite à gauche, mais ce que je me dis moi-même, c'est la nécessité pour chacun, chacune de nous, de se placer dans la présence du Seigneur et se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Montre-moi ta volonté. Il était disponible, il a considéré, il a réévalué. Et peut-être il faut aujourd'hui, chers frères et sœurs, une réévaluation de notre état. Est-ce que l'ennemi a réussi de nous mettre hors du combat spirituel? Est-ce qu'il y a parmi nous un esprit, un sentiment d'inutilité, de découragement? Or, que nous ne donnons pas donc à l'ennemi de réussir parmi nous. Soyons donc encouragés, parce que nous avons des ressources infuisables, inépuisables. Il avait aussi cherché la coopération de ses frères dans les versets 17 et 18. Il a donc parlé. Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes? Mais il n'est pas resté là de se plaindre. Vous voyez la misère? Bien, venez, venez, bâtissons la muraille. Et son esprit d'enthousiasme, mais d'un enthousiasme sanctifié par le fait qu'il a passé du temps dans la présence de l'Éternel. Voilà un enthousiasme sanctifié, profond, qui a touché les cœurs et les consciences de ses frères. C'était un esprit contagieux, pour ainsi dire. Sa manière de se comporter, il a dit dans le verset 18, et je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi. Il avait donc l'approbation de Dieu. Ça, c'est une chose essentielle. Pas que nous nous recommandons nous-mêmes, mais que le Seigneur nous recommande aux autres. Et cela se fait inconsciemment de nous. L'approbation du Seigneur, c'est cet esprit de disponibilité, cet esprit d'un serviteur, cet esprit de s'humilier, de préférer les autres, de respecter mes frères et sœurs, de les aimer, de les servir d'une manière très pratique, d'être en bénédiction pour les autres. Donc, nous avons une investigation personnelle de la situation. Nous avons la recherche, le désir de la coopération, de la communion avec nos frères et sœurs. Nous sommes tous impliqués. Et finalement, un esprit de détermination. Déterminé. Peut-être pour quelques-uns, parmi nous ce soir, de sortir d'ici avec une sainte détermination de dire, « Oh Seigneur, jusqu'à ce moment, j'ai vécu pour moi-même. Et maintenant, j'ai réalisé que je dois vivre pour toi, afin que je puisse être en bénédiction pour les autres. Afin que je puisse être aussi un réparateur des brèches. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus. Aide-moi, remplis-moi de ton esprit, afin que je puisse être constructif et une bénédiction pour mes frères et sœurs, pour sa gloire.